tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Attention fragile, peut-on lire sur certains cartons d'emballage? Écrit à l'encre sympathique, c'est ce que l'on pourrait lire sur nos corps. Nous sommes de frêles coquilles de noix qui dérivons sur le long fleuve intranquille de la vie. La tempête sanitaire aurait pu briser nos sociétés, mais nous avons tenu le cap. Nul naufrage, nul effondrement à l'horizon pour l'instant. Et si nous étions plus solides que nous le pensons, même si nous avons conscience de l'extrême fragilité de la condition humaine, cette condition humaine comparée à la fragilité d'un vase par le philosophe romain Sénèque. Nous verrons également ce matin qu'il ne faut pas avoir peur de montrer sa fragilité, comme dans le film Fragile, qui remet en question certaines normes virilistes. Savoir montrer sa fragilité, oui, mais sans forcément tomber dans l'étalage de ses petites blessures narcissiques. Enfin, nous verrons ce qui distingue la fragilité de la faiblesse et de la vulnérabilité. Comment faire de la fragilité une force intérieure, même si au fond, être fragile, c'est peut-être n'être ni fort ni faible. Et comme le dit notre partenaire Philosophie Magazine, la fragilité est un chemin de liberté entre la résistance au choc et l'adaptation aux événements. Et vous, pensez-vous que nous sommes si fragiles que ça après avoir vécu cette crise sanitaire? Vous êtes-vous senti fragilisé ou au contraire plus fort? Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Laissez-nous également des notes vocales sur l'appli France Inter si vous n'osez pas appeler le standard. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, à lire et BI, grand bien vous fasse. Vaincre, la cellulite, la timidité, le stress et le hockey. Gagner, vénération de la fermeté, des seins, des cuisses, comme de celles des discours politiques musclés, couillus. Tout sauf être un flamby. Terreur de la chute, du faux pas, du ralentissement, agacement lorsqu'on se trouve derrière une vieille dame si lente à rendre la monnaie aux caisses des magasins. Terreur d'être mise à nu, désignée comme fragile. Cette insulte qui dit qu'on ne supporte pas assez bien les coups. Cette insulte qui renvoie au tapis anxieux, déprimé, hésitant. Fragile, résolument incertain, obstinément incapable de fonctionner, radicalement fragile, oscillant entre confiance et désespoir, vivant de hasard et de conditionnel, puisque, comme l'écrivait Francis Scott Fitzgerald, nous sommes tous d'étranges oiseaux, plus étranges encore derrière notre visage et notre voix, que nous ne souhaitons qu'on le sache ou que nous ne le savons nous-mêmes.
Le beau texte de l'écrivaine Lola Lafont dans Boomerang le 1er septembre 2020. Et pour évoquer notre fragilité constitutive de la condition humaine, trois invités. Bonjour Martin Legros.
Bonjour Ali Rébéi.
Philosophe de formation, rédacteur en chef du mensuel Philosophie Magazine avec à la une « Sommes-nous si fragiles ?». Bonjour Arthur Lochmann.
Bonjour Ali Rébéi.
Philosophe et charpentier, vous venez de publier chez Flammarion « Toucher le vertige » qui évoque la fragilité de notre relation au monde. Bonjour Camille Sfèze.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne et vous avez publié « Vulnérable, s'émerveiller d'une sensibilité retrouvée ». Alors, Isidore de Séville, que j'aime citer à mes heures perdues, nous dit qu'est fragile ce qui peut se briser. Et le dictionnaire historique de la langue française nous apprend que « fragile » est un emprunt du latin « fragilis », qui veut dire « cassant, frêle », mais aussi « faible, périssable ».« Fragile » qui vient également de « frangéré », qui veut dire « briser ». « Fragilité » se définit comme le caractère de ce qui peut se casser facilement. Cela veut dire également faiblesse de constitution ou encore caractère éphémère. Arthur Lochmann, ça tombe sur vous. Comment définissez-vous la fragilité au cœur de votre livre à travers donc cette question du vertige?
La fragilité, à mon avis, elle se distingue de la question de la vulnérabilité qui résulte qui est une capacité à résister à des attaques venant de l'extérieur. Tandis que la fragilité, c'est un rapport à soi. Et le vertige est un exemple typique de rencontre avec la fragilité, avec l'imagination qui s'affole face au vide. Et donc un simple rapport à soi, un simple rapport à au vide qu'on a en soi ou à la capacité qu'on a à résister à sa propre imagination.
Votre définition, Martin Legros?
Oui, je distinguerais la fragilité de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est tombé sous les coups du dehors, alors que la fragilité, je dirais, décrit plus une constitution intérieure, pas nécessairement des individus, ça peut être aussi des sociétés, ça peut être des collectifs, des institutions. Elles sont fragiles, et cette fragilité peut être, c'est une menace, mais ça peut être une ressource, et c'est ça qu'on a essayé d'explorer.
Camille Sfèze, vous établissez une nuance entre vulnérabilité et fragilité. Vous écrivez, le terme vulnérable sert parfois à masquer que nous nous sentons fragiles, fragile, comme si c'était plus acceptable, comme si ce mot pouvait minimiser la douleur.
Oui, parce que je suis tout à fait d'accord avec votre définition. Vulnérable, je le suis par rapport à l'extérieur. Et en même temps, aujourd'hui, on sent bien que c'est plus facile de dire qu'on est vulnérable parce que je crois que profondément, cette fragilité qui est constitutive de notre condition humaine, elle nous fait peur. Il y a aussi une nuance pour moi, c'est que la vulnérabilité, elle sous-entend aussi mon interdépendance. Je suis vulnérable à la vie, mais je suis vulnérable aussi aux autres. Et je viens me rappeler, en contactant ma fragilité, qu'en fait, je vis pas toute seule dans ma tour ou dans mon île, et que du coup, voilà, ça me rappelle aussi cette interdépendance.
Si je vous comprends bien, se dire fragile, c'est plus difficile à reconnaître ou à formuler?
Oui, parce qu'on vit dans une société où cette fragilité est associée à de la faiblesse, et je crois que c'est vraiment le sujet qu'on va essayer d'éclairer ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire que cette fragilité, quand on la contacte, souvent on en a honte, on a envie de la mettre de côté, de la masquer, parce que on a l'idée communément admise que être fragile, c'est être faible, c'est qu'on n'a pas fait assez d'efforts, qu'on n'a pas médité assez, fait assez, lu assez de livres de développement personnel, et que on pourrait ne pas être fragile. Il y a vraiment cette idée qu'on pourrait l'éviter, cette fragilité. Alors qu'en fait, si je vous interrogeais dans l'intime, hein, on peut la dire, cette fragilité, on sait bien, on se sait tous fragiles, mais on a du mal à l'avouer, je crois.
Arthur Lockman.
Oui, la faiblesse ou la fragilité n'a rien à voir avec le couple force-faiblesse. On peut être fort en ayant conscience de ses fragilités, ou à l'inverse, devenir faible à faute de vouloir les regarder, les affronter, et se reconnaître justement fragile. Il y a donc quelque chose qui rend fort à se reconnaître fragile, à en prendre conscience et à savoir faire avec.
Martin Legros, la fragilité est-elle synonyme de faiblesse?
Alors elle tend à l'être, et je dirais c'est très juste ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire on a une très grande difficulté à l'affronter. Pourquoi? Parce que quand vous y pensez, même quand on traverse des épreuves, quand des proches traversent des épreuves, on a tendance à leur dire allez, ça va aller, tu vas pouvoir rebondir. C'est le grand concept qui est très précieux d'ailleurs de la résilience, la capacité que les individus ont étonnante de traverser des épreuves et de ne pas être détruits par les épreuves. Mais donc on regarde toujours la fin, la sortie de la fragilité. Or, ce qui est intéressant dans la fragilité, c'est de voir, non pas qu'on peut en sortir, oui, on peut en sortir, mais en sortant, on garde quelque chose de cette traversée. Et c'est ça qu'on essaie d'explorer. Je crois qu'on vient de vivre depuis 18 mois une expérience quand même très éprouvante. Il y a eu des choses, il y a eu des morts, il y a eu des malades, il y a eu des choses dont on aurait bien voulu se passer, mais il y a eu aussi des choses, des liens, il y a eu des expériences, il y a eu des choses précieuses là-dedans, et il faudrait pas trop vite se précipiter sur les issues et sur les manières d'en sortir pour essayer de faire un peu le bilan des forces qu'on en a puisé dans cette expérience de fragilité collective.
Camille Sfèze.
Oui, et parfois on puise pas une force, c'est-à-dire que là aussi dans un discours un peu peut-être de développement personnel ou de pensée magique, on aurait envie de dire je vais faire de ma vulnérabilité une force, je vais faire de cette fragilité une force, et on va trop vite à la conclusion, alors qu'en fait cette fragilité c'est une brisure, c'est une fêlure, on se relève pas toujours plus fort d'un échec, on va pas forcément en faire quelque chose. Et je crois qu'en fait, c'est cette tolérance à accueillir ce mouvement intérieur, parce que c'est de l'ordre du corps, hein, accueillir la douleur, accueillir la peur, qui fait que peut-être on va gagner quelque chose, mais c'est un peut-être, quoi.
C'est ce que raconte admirablement la philosophe Claire Marin dans son dernier livre Rupture. Le contraire de la fragilité, c'est la solidité, Arthur Lockman. Je rappelle que vous avez écrit un très bel essai sur votre vie de charpentier, La vie solide, qui avait reçu le prix Maurice Genevoix.
Oui, la vie solide racontait la construction d'un certain rapport résistant avec la matière, dans la rencontre avec le bois, notamment à travers la charpente. Oui, ce livre sur le vertige, c'est une autre façon de retrouver une certaine, non pas solidité, mais stabilité, tout en ayant conscience ou en acceptant précisément les fêlures qui peuvent se révéler dans le vertige. Le vertige sous toutes ses formes, celui très perceptif, visuel, ou bien celui plus existentiel, philosophique, qu'on peut éprouver en ce moment face à la situation sanitaire actuelle ou à l'adolescence, par exemple, quand l'ancrage dans le monde n'est pas aussi fort que plus tard dans l'existence.
Alors Camille Sfèze, dans un monde qui s'est construit sur la force, la performance, la compétition, des valeurs viriles, apparaître comme fragile, vous l'avez dit tout à l'heure, peut s'avérer assez dangereux, avec le risque d'être humilié, attaqué, rabaissé.
Oui, c'est pour ça qu'on la masque, cette fragilité. Hein. C'est-à-dire que quand on grandit, enfin, ce monde viriliste dans lequel on évolue, cette société, ça fait des milliers d'années qu'elle se construit sur ces valeurs-là, de la force. Et en plus, il y a ce mécanisme psychique de la honte hein, qui fait que tout d'un coup, quand je me sens fragile, j'ai l'impression d'être seule au monde, à pas arriver à faire comme tout le monde, à suivre cette course à la performance. Et donc, du coup, je vais taire cette fragilité. Mais c'est vrai aussi que... si on se met collectivement à croire à cette histoire qu'il faut se montrer fort, alors il y a un écart énorme entre ce qu'on peut ressentir, encore une fois, dans l'intime et puis les injonctions dans lesquelles on est baigné, qui nous disent « fais plus d'efforts, mets tout en œuvre, fixe-toi des objectifs plus grands ».
Se montrer fort, certes, Martin Legros, mais la vie nous rappelle sans cesse que nous sommes fragiles. Les blessures psychiques ou physiques, la maladie, le deuil, hein, on l'a éprouvé, vous l'avez dit, avec la pandémie. Un coronavirus est devenu maître et possesseur du cours de notre vie. Hein.
Oui, alors après, on peut aussi s'étonner du fait que nous avons quand même tenu dans cette épreuve collectivement. On a quand même, ça a révélé des failles très très fortes. Ça a révélé, pensons au monde de l'éducation, pensons aux inégalités devant le savoir, devant le logement par exemple. Et donc psychique aussi, on a vu que par exemple, les femmes seules ou les mères seules avaient beaucoup plus de mal, et c'est normal. Que seul face à une épreuve comme ça, ce soit beaucoup plus difficile à affronter ces épreuves. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'en dépit de cela, on peut s'étonner du fait que on a tenu. On nous annonçait tout de même, il y avait tout un discours, souvenez-vous, la collapsologie avant cette épreuve avait le vent en poupe et nous prédisait des effondrements.
La collapsologie, pour le dire vite, c'est la science de l'effondrement.
C'est une science très intéressante, d'ailleurs, qui réfléchit à la manière dont des systèmes entiers peuvent s'effondrer sous le coup de la crise écologique, mais sous le coup de l'économie aussi. Et toute la question de la collapsologie, c'est la question des seuils. C'est-à-dire à partir de quel seuil un système qui tient, un système interdépendant qui est lié par toute de manière intérieure, par sa structure intérieure, s'effondre. Eh bien, on aurait pu croire, penser simplement à la logistique. Premier confinement, on s'est tous demandé si on allait pouvoir aller à se nourrir et si les supermarchés seraient remplis. Mais la logistique a tenu. Pensez à la dette, les dettes colossales que les sociétés occidentales ont empruntées, ça a tenu. Et donc, on découvre aussi, grâce à ces expériences, des preuves, on découvre des ressources, non pas pour les dépasser, mais peut-être qu'on va pouvoir exploiter ces fragilités, le fait qu'on n'est plus lié, qu'il y a une interdépendance, et que donc on ferait bien de reconnaître qu'on est tous liés les uns aux autres, que ceux qui du back-office, eh bien on en a besoin et qui méritent peut-être plus de reconnaissance. Donc tout cela, je dirais, le constat, c'est à la fois, oui, une grande épreuve collective de fragilité, une grande capacité d'avoir tenu, et une révélation des forces et des faiblesses.
Écoutons une auditrice de New York qui nous a laissé une note vocale sur l'appli France Inter.
Bonjour, Marie, 42 ans. Clairement, moi, la crise sanitaire a littéralement exacerbé des fragilités que j'avais en moi et que je n'avais pas réellement soupçonnées, notamment en termes de charge mentale, professionnelle et familiale. Et le résultat a été que j'ai explosé en plein vol suite à une première période de télétravail très intense dans laquelle j'ai clairement voulu tout donner à mon entreprise au détriment de ma santé mentale. Et aujourd'hui, je suis en temps partiel thérapeutique depuis presque 9 mois. Voilà mon témoignage. Merci pour vos émissions. Au revoir.
Camille Sfès, sur le témoignage de Marie, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne.
Oui, c'est très intéressant parce que c'est ce qui se passe quand il y a l'extérieur tout d'un coup nous met sous pression, hein, comme on a été depuis 18 mois. Ça vient révéler, comme le dit Marie, des fragilités qui étaient déjà là, qui étaient préexistantes et auxquelles on n'a pas accès finalement tant qu'on n'est pas confronté à une forme d'adversité. Et c'est dans cette rencontre avec l'adversité que tout d'un coup on peut porter un nouveau regard sur qui on est. Avec... Alors évidemment, il y a quelque chose de douloureux à rencontrer cette fragilité et en même temps, je crois vraiment qu'on peut développer un regard curieux sur, tiens, ben oui, il y a quelque chose qui est déséquilibré, comment je vais trouver un nouvel équilibre, ou simplement cette partie de moi que j'avais envie de mettre de côté, ben finalement, c'est aussi ce que je suis. Je crois que cette fragilité, quand on la regarde en face, d'une certaine manière, ça nous permet d'être plus complexe et plus complet, peut-être en tant qu'être humain, que simplement la belle image qu'on aimerait donner à l'extérieur.
Arthur Lockman.
Oui, une des choses heureuses de cette situation, c'est qu'elle a libéré, en certaine manière, la parole sur la fragilité. et que nommer les choses, commencer à les dire, c'est déjà travailler sur ces fêlures, les élaborer sur un plan collectif comme sur un plan individuel, dans le rapport à la peur par exemple. Le fait de nommer la peur contribue à la réduire, et c'est vrai donc aussi bien sur le plan collectif ou sociétal que sur le plan individuel. C'est d'ailleurs un des effets d'une thérapie, de parler, de mettre des mots sur les faiblesses qu'on a pour en prendre conscience, se les révéler à soi-même et vivre avec.
Je trouve très intéressant le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est que on est tous comme ça. Le premier réflexe de cette femme a été de se mettre en position de combat. Et quand on vit une épreuve, en effet, on a presque un premier réflexe animal et on va utiliser toutes les ressources qu'on a de manière peut-être imprudente pour se mettre pour lutter. Et puis évidemment, on s'effondre parce qu'on se dépense trop. Et peut-être que cette épreuve est une manière aussi d'apprendre à un petit peu mieux gérer la manière dont on use ses forces.
Camille Sfèze.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un réflexe de survie. En fait, ce sont des stratégies de survie qu'on met en place depuis notre plus jeune âge, hein, qui sont face à cette adversité. Je vais essayer d'être fort. Je vais masquer la douleur. Je vais m'anesthésier. Je vais faire plus d'efforts, vraiment pour survivre. Et puis, bah, ça ne fonctionne pas. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut apprendre, du coup, je parlais d'équilibre tout à l'heure, mais quelque chose de plus juste aussi dans notre manière de réagir.
Alors Martin Legros, depuis l'Antiquité, les penseurs usent de métaphores pour décrire la condition humaine. Tiens, ce bon vieux Sénèque, philosophe et richissime homme d'État romain au 1er siècle de notre ère, parle de l'homme comme, je le cite, d'un vase fragile, sans consistance. Il ne faut qu'une faible secousse et non une grande tempête pour te briser. Le plus léger choc va te dissoudre. Le vase qui peut se briser au moindre choc et notre vie qui peut s'arrêter à n'importe quel moment. Le vase nous dit ceci, n'oublie pas que tu es mortel.
Oui, exactement, c'est un rappel de notre finitude. Alors ce qui est intéressant, il y a plein de métaphores des philosophes, on les a recueillis, il y a le vase, il y a la bûche, le bois qui peut se fêler, il y a les larmes, il y a la voix, mais en effet Sénèque utilise la métaphore du vase, et ce qui est intéressant c'est que les stoïciens ne font pas beaucoup de... enfin essayent de neutraliser la fragilité en règle générale. Ils nous disent, souvenez-vous, la distinction entre ce qui dépend et ce qui dépend pas de nous, on met de côté ce qui dépend pas de nous et on travaille sur les représentations par rapport à ce qui dépend de nous. Si je suis affligé par la mort d'un proche, mais je peux rien y faire, mais je peux essayer de travailler sur les représentations de la tristesse et essayer de la mettre de côté. Donc il y a une tendance, un mouvement de fond stoïcien, mais de toute la pensée grecque, qui est de, vu qu'on n'est pas très armé, qu'il n'y a pas beaucoup d'outils de défense naturelle, eh bien, de produire une forme d'impassibilité, de viser une forme d'impassibilité. Et pourtant, même Sénèque qui vise l'impassibilité, eh bien, il a cette métaphore très précieuse du vase et qui nous rappelle que même si on peut faire tous les efforts qu'on veut pour se rendre impassible, on reste un vase fragile. On reste exposé, parce que nous sommes des êtres mortels, au dehors et à la brisure et à la fêlure.
Alors j'aime beaucoup ce que dit le philosophe Jean-Louis Chrétien, qui a publié un magnifique livre, hein, Fragilité, aux éditions de Minuit. Je le cite, « De la fragilité qui est la nôtre et de son sens, la voix humaine forme la plus haute manifestation et la plus nue ».
Oui, ce qu'il dit Jean-Louis Chrétien est très beau sur la voix, parce qu'il met en évidence quelque chose une ambivalence ou une dualité de la voix. La voix, c'est à la fois ce avec quoi je peux m'exprimer, me défendre, faire valoir ma pensée, m'exprimer, mais c'est aussi, il suffit de penser, vous savez, quand vous êtes ému, tout d'un coup, votre voix, indépendamment de vous, elle se met à chevrotter, à hésiter, et on sent dans une voix qui est émue et qui est touchée. Donc c'est à la fois le mode d'expression d'un outil en un sens de combat, mais c'est aussi le révélateur, c'est intéressant, de nos fêlures intérieures et de la manière dont on peut être remué par une situation.
Camille Sfèze, sur cette voix qui raconte nos vulnérabilités, nos fragilités.
Oui, et ce qui est intéressant aussi dans la voix, c'est, enfin, je raconte dans mon livre des expériences de chant où finalement la voix, elle vient de moi, elle vient de mon corps, hein, de mon souffle, et en même temps, comme elle est liée au souffle, il y a quelque chose qui m'échappe aussi dans la voix. C'est-à-dire que quand je parle, cet air-là qu'on partage, par exemple, tous ensemble, d'une certaine manière, on peut se dire que la voix nous traverse. Et cette vulnérabilité, pour moi, ou cette recherche de me laisser traverser, hein, c'est aussi ce qui rejoint peut-être votre vision du sublime. Hein, comment je peux, tout d'un coup, quand je suis vraiment dans cet état de fragilité, c'est pas simplement ma volonté qui me tient. Et du coup, si c'est pas simplement ma volonté, il y a autre chose. Et cette autre chose, ça a à voir avec ce qui me dépasse, ou ça a à voir avec quelque chose qui dépasse mes sens, qui dépasse mon corps, et qu'on peut contacter dans la voix. Ouais.
Arthur Lockman.
Dans ce livre Toucher le vertige, je raconte un grand vertige qui m'a saisi en haut d'une montagne alors que j'étais dans une course avec une camarade de cordée. Et c'est précisément la voix chargée de peur de cette autre compagne de cordée qui m'a fait sortir de ma propre peur parce qu'elle était chargée d'une très grande puissance d'émotion justement, alors que moi j'avais pas eu la force de dire ma peur sur ce moment-là. Et donc la voix de ma compagne de cordée m'a tiré de la peur, m'en a fait sortir et m'a permis de reprendre contact avec le monde dont je m'étais coupé dans cette soudaine solitude qu'est le vertige.
Alors pour vous, c'est le vertige hein, qui raconte aussi notre fragile condition humaine. Vous pratiquez donc la randonnée en montagne et à l'occasion donc de l'ascension du massif du Mont Blanc, vous parlez d'une expérience physique et métaphysique avec cette peur de perte des repères, cette peur du vide. Qu'est-ce que le vertige dit de notre rapport fragile à soi et au monde ?
Ce qui est très étonnant avec le vertige, c'est que dans sa grande polysémie, on parle des vertiges pour des troubles de l'oreille interne, aussi bien que de vertiges existentiels face aux doutes qu'on peut avoir à l'égard du monde.
Vertige de l'amour
Ou de toute autre sorte de vertige. Et pourtant, il y a un phénomène presque physique à chaque fois commun qui est une sensation illusoire de mouvement. Mais cette sensation illusoire de mouvement, elle naît d'une perte de repères sous différentes formes, aussi bien physiologiques, donc quand des cristaux de l'oreille interne se bloquent, que des repères métaphysiques, comme on peut en avoir, comme on peut en trouver ou en rechercher dans la philosophie, dans la pratique de la philosophie, et comme par exemple Descartes en trouve dans les méditations métaphysiques.
Mais qu'est-ce que dit le vertige monde. Qu'est-ce que dit le vertige de notre fragilité?
Je pense qu'il dit la fascination qu'on peut avoir pour sa propre fragilité. Il y a une très belle phrase de Kundera sur cette idée que le vertige, c'est être ivre de sa propre faiblesse, emporté par sa propre imagination. Et donc je crois que le vertige, c'est une sorte de rencontre avec sa propre fragilité et de fascination qu'on peut avoir, de fascination mêlée d'effroi en même temps.
Et vous parlez d'ailleurs de panique voluptueuse, hein. Panique voluptueuse.
Tout à fait, il y a une dimension très ambiguë dans le vertige. À la fois, on peut le chercher, et ça serait d'ailleurs un peu étonnant d'aller en montagne en ayant le vertige, sans qu'il y ait un plaisir aussi à éprouver le vertige. Et ça en dit assez long sur le rapport qu'on a à sa propre fragilité, le fait qu'à la fois elle puisse nous effrayer et nous fasciner, puisque c'est un peu la limite de notre être qu'on rencontre dans le vertige.
Oui, il y a un vertige qui peut... Ouais, c'est le vertige de la conscience de l'infini, qui peut être assez... qui est à la fois sublime et absolument angoissant.
Hein. Je crois qu'on est nombreux à pouvoir... avoir un petit vertige existentiel en contemplant le ciel d'été, la nuit, en se laissant happer par les étoiles. Et puis petit à petit, on pressent la profusion d'étoiles et puis l'infini de l'univers que nous révèle cette profusion d'étoiles. Et il y a quelque chose c'est le terme sublime, le terme consacré, pour désigner cette expérience par-delà les limites des sens. On a le sentiment, en éprouvant cette limite de nos propres sens, de découvrir quelque chose d'absolu, d'infini en nous-mêmes, que les philosophes appellent le sublime.
Camille Sfès, la fragilité peut donc contenir une forme de beauté. Et d'ailleurs, pour vous, une personne qui offre sa propre fragilité, eh bien, c'est un cadeau rare.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement intime que habituellement on la masque. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est dans ce que vous dites, c'est finalement. Dans ce moment-là où je suis, par exemple, face à ce ciel étoilé, face à cette immensité, je suis aussi, quand je contacte ma fragilité, je suis aussi plus en contact avec le réel. Et je crois que, pour moi, la fragilité, ça nous fait basculer. Hein, c'est un effet de seuil, c'est-à-dire que... Quand je me situe vraiment, quand je cherche pas à en faire quelque chose, mais que je me situe vraiment dans cette peur ou dans ce vertige, tout d'un coup, je suis aussi plus en contact avec ce qui m'entoure et plus simplement, voilà, dans mes pensées. Donc il y a quelque chose qui rend réel en fait. Il y a peut-être dans cette recherche du réel quelque chose. Enfin, la fragilité ouvre cette porte-là, en tout cas.
Allez, dans un instant, nous verrons de quelle façon la pandémie de Covid-19 a révélé nos fragilités, mais également nos solidités. N'hésitez pas à nous laisser des notes vocales sur l'appli France Inter. Si vous n'osez pas, appeler le standard au 01 45 24 7000. En attendant, on écoute Alain Souchon, L'amour à la machine.
Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la ville est tabasse, et alors elle passe. Allez, à la machine. Le rouge pour faire tomber la misère de nos gentils petits grands-pères, noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir.
Alain Souchon interprétait L'amour à la machine.
Eh ben Perrin, Perrin, ça va pas?
Grand bien vous fasse.
Si, si, ça va. Excusez-moi, je vais prendre un peu l'air.
Ali Rébéi.
Il est très émotif. C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
Sur France Inter.
10h34 et on s'intéresse ce matin à la fragilité. Sommes-nous si fragiles, se demande d'ailleurs Philosophie Magazine ce mois-ci. Et vous racontez-nous si la pandémie a révélé vos fragilités ou au contraire vos forces. 01 45 24 7000, sans oublier les messages et les notes vocales sur l'appli France Inter. Écoutons le philosophe Jean-Louis Chrétien, l'auteur de Fragilité.
Il y a une très belle phrase de Stendhal qui dit « Commencer à parler sans savoir comment il terminerait ses phrases et c'est pourquoi il parlait bien ». Alors je dirais qu'il commençait à vivre sans savoir comment il continuerait sa vie et c'est pourquoi il vivrait bien. Si je proposais des recettes pour supprimer la fragilité ou pour y faire face, je serais un sophiste et un charlatan. On peut simplement appeler à la discerner, à en comprendre le sens, et à voir précisément quel sens nous pouvons donner à notre vie et comment nous pouvons la mener étant telle. En ce sens-là, quand il y a quelque chose de précaire dans votre existence, vous devenez particulièrement inventif, habile, avec un incroyable flair, pour pouvoir vivre malgré cela et malgré tout. Et donc, chacun a l'intelligence de son propre désir de vivre selon la fragilité qui est la sienne. Il ne s'agit pas de vouloir la supprimer. ni la masquer purement et simplement.
Le philosophe Jean-Louis Chrétien, disparu en 2019 dans les chemins de la connaissance en novembre 2017. Martin Le Gros, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine.
Oui, il y a un élément sur lequel je voudrais pointer, important, il me semble, c'est qu'il ne faudrait pas disserter sur la fragilité comme une expérience extraordinaire que tout le monde devrait vivre et traverser. Arthur Lockman le dit très bien dans son livre et dans le texte qu'il a, il a publié dans Philosophie Magazine, une expérience de vertige, elle peut être belle, elle peut être magnifique, comme dit Kahn, ça peut être un sublime, mais à condition que je sois en sécurité. C'est-à-dire le ciel étoilé dont vous parliez, Ali, il m'émeut parce que je ne suis pas en train de tomber dans cet abîme. Infini.
Comme dans le film Gravity.
Voilà, de la même manière, une expérience de vertige, elle a quelque chose de grisant quand je suis sur mes skis et que je sais que je peux plus ou moins m'en sortir si je dévale la pente et que je tombe dans le trou. Non, c'est pas joyeux. Et je dirais ça pour la fragilité aussi. Moi, j'ai fait une expérience sur laquelle je veux pas nécessairement étendre, mais de burn-out très très violent. Et ça a été au moment où je l'ai faite cette expérience, c'était des semaines, mais de douleur, de panique, de crise, d'angoisse que je ne souhaite à personne. Et pourtant, a posteriori, une fois que j'en suis sorti, je peux en effet me dire, et je crois, je suis convaincu que cette expérience, au final, m'a apporté des choses et que j'en ai gardé quelque chose, j'en ai gardé une nouvelle sensibilité à des choses, à moi-même, au dehors, aux autres, une plus grande sensibilité. Mais jamais je ne souhaiterais à quiconque, y compris à moi-même, de traverser cette expérience. Donc ne dissertons pas du fragile comme de quelque chose de formidable, c'est toujours douloureux.
Camille Sfès, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne.
Oui, il y a vraiment, je pense que c'est vraiment essentiel de se rappeler de ça, c'est-à-dire qu'on fait tout vraiment pour la mettre de côté, cette fragilité, hein, parce qu'elle nous fait peur, parce qu'elle est extrêmement inconfortable, qu'elle est douloureuse, et en même temps, vous dites bien, il y a quelque chose qui nous enrichit de vivre cette fragilité, mais on peut pas se le dire sur le moment, parce que ce serait encore d'une certaine manière tenter d'évacuer. Hein. C'est comme quand on s'avoue toujours déçu, hein. On est toujours à l'avance. Par exemple, on va pas profiter de quelque chose, on va minimiser la joie. Ça, c'est un mécanisme qui nous évite de toucher la vraie déception. Hein. Parce que finalement, quand je suis... je me sens fragile, quand je fais un burn-out, quand je perds quelqu'un, je ne suis que dans la douleur.
Arthur Lockman, philosophe et charpentier.
Oui, traverser la fragilité, parce qu'il ne s'agit pas d'y demeurer, mais seulement d'y rentrer, puis d'en ressortir, c'est à la fois aiguiser son regard, je crois, sur les signes avant-coureurs, ou sur ses propres réactions à certaines stimulations trop fortes pour être encaissées. Et c'est aussi, en retrouvant la stabilité après coup, apprécier d'une manière un peu renforcée, un peu augmentée, la stabilité, le plaisir ou le bonheur qu'on peut avoir à vivre dans un état normal, stable, continu, à l'aune de ce moment de trouble, d'instabilité qu'on aura traversé.
Alors je cite à nouveau le philosophe Jean-Louis Chrétien, « La fragilité du corps humain, quand rien peut atteindre et blesser, comme celle de notre vie, dont le moindre incident peut trancher le fil ou interrompre le cours. » Et c'est vrai que lorsque l'on se rend compte de la fragilité de son corps humain, c'est absolument vertigineux, Camille Sfès.
Oui, parce que, encore une fois, c'est une expérience sensible, que cette vulnérabilité ou cette fragilité, c'est quelque chose que j'expérimente dans mon corps, et ça m'échappe, voilà, par définition. Je me rends compte aussi, dans ces moments de fragilité, donc je vais pouvoir mieux analyser les signes avant-coureurs, je vais pouvoir profiter de la stabilité, Jean-Louis Chrétien dit aussi, je vais pouvoir peut-être être plus créatif, plus imaginatif pour la suite. Je vais aussi peut-être, à l'occasion de ce moment où je m'effondre, découvrir des personnages à l'intérieur de moi, découvrir des facettes de moi-même qui font, par exemple, quand je repense au témoignage de l'auditrice tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie dans l'adversité de donner tout à mon travail, hein? C'est quel personnage en moi qui se lance dans cette combativité, par exemple? Et là aussi, il y a quelque chose de notre richesse, hein, de venir découvrir des personnages intérieurs dont on n'avait pas conscience jusqu'alors.
Alors Nietzsche affirmait que nous sommes des corps, des êtres physiologiques chargés d'humeur et périssables. Martin Le Gros, la conscience d'être un organisme, un fragile organisme soumis au chaos du monde, ça peut être très terrifiant.
Ça peut être terrifiant.
Vous en avez fait l'expérience, je ne révèle rien avec... vous avez été atteint du Covid-19 d'une forme grave, vous l'avez raconté dans Philosophie Magazine. Ouais. Voilà, cette expérience de cette fragilité du corps, a été...
C'est quand on fait un Covid lourd, c'est dévastateur. Ouais. On a le corps anéanti, on n'a plus de ressources, et on se demande jusqu'où les symptômes se démultiplient, et on se demande jusqu'où quand le corps tient, mais on sent qu'il est sous le coup d'assaut. Et c'est vrai qu'on se dit, mais est-ce que ça va tenir? On est complètement abattu par la fatigue. Alors moi, j'avais pas perdu ni le goût ni l'odorat, mais j'avais des maux de tête et des migraines continues jour et nuit. Et c'est vrai qu'on est là, on a un peu l'impression que le monde s'effondre. J'avais relu à ce moment-là, c'est un peu défaut professionnel, j'avais relu Descartes, et c'est vrai qu'il y avait l'idée que tout d'un coup, c'était pas un rêve, c'était pas une expérience, c'était un cauchemar. Le monde, on a l'impression que le monde s'effondre autour de nous, et on attend qu'il revienne, que les fils se renouent. Donc c'est une traversée, oui, assez éprouvante, que je ne souhaite à personne.
Bonjour Pierre, bienvenue.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Vous appelez de Carcassonne, dans le Lude.
Oui, juste à côté. en préambule rapide pour bien comprendre ce que je vais dire, qui est assez facile à comprendre. Dans la vie, on s'aperçoit que très souvent, les gens qui montrent trop leur force sont de vrais fragiles. Parce que les vrais forts n'ont pas besoin de montrer leur force, ils savent parfaitement pouvoir compter dessus si l'occasion se présentait. Et donc, on définit la fragilité en opposition avec la force, avec la résistance, on la définit en archétype féminin face à un archétype masculin de la force. Mais ne peut-on pas aborder la fragilité par sa délicatesse, par la finesse, par l'éphémère ? Ne peut-on pas ranger la fragilité avant tout du côté du beau ? Voilà.
Martin Legros, très belle réflexion de Pierre.
Oui, moi, avec toujours cette réserve que je ne voudrais pas esthétiser une expérience du négatif, une expérience douloureuse, mais vous avez tout à fait raison. Observons simplement les grandes représentations, les grands tableaux, les grands films qui nous remuent. C'est rarement ça peut être des comédies, bien sûr, mais les films qui nous remuent le plus, ou les tableaux qui nous remuent le plus, sont les tableaux d'individus qui tout d'un coup révèlent que elles sont en effet ouvertes à cette... Parce que ça révèle une sensibilité, quelqu'un qui pleure. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui pleure, ça nous retourne? C'est très étrange. On pourrait croire que nous sommes des animaux darwiniens faits pour la compétition et que les pleureurs, on pourrait s'en moquer et dire non. Les pleurs, quelqu'un qui pleure, ça a quelque chose qui nous remue parce que ça, elle s'arrête un instant sur ce qui lui arrive, sur l'épreuve qu'elle vit, et il y a quelque chose qui se partage, et donc oui, ça nous remue, c'est très étonnant. Dans le fond, j'ai pas tout à fait la réponse, mais il me semble que nous sommes tous remués par quelqu'un qui pleure. Pourquoi, je ne sais pas trop.
Camille Sfez opine du chef.
Oui, ça me fait penser à ce que dit la chercheuse américaine Brené Brown, hein, quand elle parle de la vulnérabilité. Elle dit que la vulnérabilité, c'est au cœur de nos expériences humaines significatives. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un qui pleure, c'est comme si l'autre, je pouvais être le témoin de cette fragilité qui est si difficile à voir chez moi, et donc de voir la fragilité chez l'autre, ça va me permettre de me connecter aussi à ma propre fragilité, et du coup je vais pouvoir être en relation avec cet autre de manière plus profonde, plus ample, plus riche aussi, et c'est cette c'est aussi pour ça que cette fragilité, elle est au cœur de nos expériences humaines significatives.
Arthur Lochmann.
Une expérience très frappante, c'est d'assister à quelqu'un ou de voir quelqu'un qui s'approche d'une falaise et d'avoir le vertige pour cette personne, oui. Non pas soi-même. Et la personne qu'on contemple n'a pas forcément elle-même le vertige, mais on a le vertige pour elle. On se projette dans cette personne qu'on contemple et on adopte ses propres perceptions, ou on essaie de deviner quelles sont ses perceptions. Il y a quelque chose de l'empathie qui se joue dans le vertige, ou plutôt le vertige est une forme... peut-être une forme très grande d'empathie qui rejoint cette question de la fragilité qui nous émeut, qui nous touche.
Patrick, sur notre page Facebook, nous écrit ceci. J'ai traversé cette période de crise sanitaire avec des moments de fragilité accrue, et en traversant ces moments-là, curieusement et étonnamment, je me suis senti fort. Pour ma part, je suis une personne sociale qui a besoin de rencontrer les gens. Pendant cette période, c'était évidemment difficile. Alors, par manque, il m'est arrivé d'arrêter des gens dans la rue pour leur parler, en leur disant que j'avais besoin de partager, et je me suis aperçu qu'eux-mêmes étaient dans cette même attente. Pierre, vous avez vu, Patrick n'a pas eu peur de montrer sa fragilité, hein, et c'est peut-être une force.
Certainement, mais là à nouveau, on se retrouve à ranger la fragilité en face de la force, oui, ou en face de ce qu'on doit montrer. Or, il y a quand même quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'esthétique dans le fragile. C'est que si je regarde, ne serait-ce qu'un travail au crochet, ou bien du travail de pierre sur une cathédrale gothique, ou même des éléments naturels qui peuvent se casser dans quelques secondes, je ne dis pas c'est qu'ils vont se casser, ce vase magnifique travaillé en porcelaine va se briser. Ce que je vois, c'est que j'assiste à un instant qui est beau, et j'assiste à un instant qui est beau parce qu'il est éphémère, et je peux assister aussi à cet instant chez moi. Cette fragilité que j'ai, elle peut être une force parce que je l'accepte, et donc j'en fais une force parce que je suis conscient de moi-même, comme le disait à l'instant l'auditeur, mais je peux aussi tout simplement y assister en tant que c'est beau, et point. Ma fragilité n'est pas forcément une force parce que je vais me briser, une faiblesse parce que je vais me briser, ou bien quelque chose qui est en opposition à ma force, en effet, mais ça peut être juste du beau, et on n'a pas souvent l'occasion de contempler du beau autour de nous, et pourquoi pas à l'intérieur de soi.
Merci beaucoup, Pierre, d'avoir partagé vos belles réflexions. Je pense que Martin Legros devrait vous embaucher comme pigiste dans Philosophie Magazine. Camille Suez, vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être?
Oui, c'est aussi vraiment ce désir d'étreinte qui naît quand je vois quelqu'un qui s'effondre devant moi, qui en pleure, qui montre sa fragilité. Alors là, dans l'exemple de l'auditeur, c'était pas forcément l'étreinte, c'était simplement communiquer avec un inconnu, mais il y a vraiment... Puisque c'est tellement vertigineux de sentir cette fragilité, c'est comme si, d'une certaine manière, c'était difficile à soutenir seul, et que du coup, ça venait nous rappeler, encore une fois, que on est des êtres sociaux, on est en lien, j'ai besoin de l'autre pour arriver, moi, à la traverser, cette fragilité. Quand il y a plus rien qui peut soutenir cette douleur, simplement la main de quelqu'un à mes côtés, qui va pas me donner de conseils, qui va pas me dire quoi faire, qui va pas me dire tu verras, ça ira mieux demain, mais quelqu'un qui est à mes côtés, ça me permet aussi de rester avec cette sensation de vertige de ma fragilité, et du coup de la vivre peut-être certainement plus sereinement, mais aussi plus pleinement.
Virginie, sur notre page Facebook, nous a envoyé un beau message. Accepter sa fragilité, c'est d'abord la reconnaître, l'accueillir, modifier notre vision sur les normes et les croyances qui régissent notre société. Le Covid nous a rappelé notre impermanence et notre fragilité. L'important est de savoir ce que nous en faisons, poser de l'or sur les fêlures, comme l'art du kintsugi au Japon. C'est le fait donc de réparer une céramique brisée à l'aide de lac saupoudré d'or.
Oui, c'est une très belle métaphore de ce qu'on peut faire de nos fragilités, les révéler, c'est-à-dire qu'elles étaient là, hein. Ces lignes de faille, elles étaient peut-être présentes dans ce vase en porcelaine qui va se casser, et cet art japonais qui vient mettre de l'or sur les fêlures, non pas pour dire, maintenant c'est cassé, je vais repartir à zéro, je vais faire un nouveau pot, je vais, voilà, maintenant que j'ai traversé ça, je suis quelqu'un de différent, pas du tout, je suis toujours le même, ces fragilités, maintenant, elles sont visibles, et en même temps, voilà, vivre avec, ça va peut-être faire quelque chose de beau.
Martin Legros, accepter sa fragilité, c'est peut-être d'accepter d'être ni faible ni fort.
Oui, il faut articuler en réalité nos forces et nos faiblesses. C'est toute la question de la fragilité. Il ne s'agit pas de faire un éloge dithyrambique de nos fêlures et de nos failles. Et il me semble que collectivement, si on réfléchit collectivement à l'expérience qu'on vient de vivre, on est un peu à ce moment justement de où il va falloir peser la manière dont nos forces et nos faiblesses peuvent s'articuler. On a interrogé une série de spécialistes sur la manière dont collectivement on a traversé cette expérience, et ils sont tous assez étonnés. En réalité, de la manière dont c'est une crise qui aurait pu être une crise systémique où plusieurs systèmes s'effondraient, les systèmes, je disais, de logistique, mais les systèmes financiers, mais les systèmes sociaux, ça a tenu. Il n'est pas sûr que la prochaine crise systémique, est-ce que ce sera, je ne sais pas, un virus, ou je ne veux pas être de mauvais augure, mais ou est-ce que ce sera la crise écologique, mais on pourrait tirer, je crois qu'on n'a pas encore fait le bilan de la manière, non seulement dont on a traversé cette crise, mais surtout dont on peut articuler les forces et les faiblesses pour, comme le disait l'auditeur, pour que la conscience de nos fragilités soit une force.
Dans un instant, nous recevons la réalisatrice du film Fragile, Emma Benestan, une comédie romantique parfaite en cette fin d'été qui montre la beauté de la fragilité masculine. En attendant, on écoute Eni qui interprète « I Want ».
« finally made some time for me. I'm happy, I'm calm, I'm jiggy, I'm sweet. I'm chasing my dreams, you're Aggie with me. Cause I didn't fit in the mold of your schemes. I'm reckless enough to go spend all my fees, but cautious enough to invest in my dreams. The vision, the board, the flying abroad, the Gucci, the Prada, you're lost in the sauce. I'm lost in the stew, I'm lost in the concept of fixing a brew. Identity crisis for me and my crew. We're black and we're British and African too, but so far removed. I'd like to go back to my mother's land. I'd like mental peace and 100 grand and a peg, babes, and we'll do up raves like it's 98. I'm so 94, but I'm work a lot more money, a vacation home, a Nigerian honey who laughs at my jokes even when they're not funny. Support my cause and I'll support yours. Buy me a Benz, look, I'll buy you a Bimmer. Posted in Jamaica, Beanie Man, Sim Simmer, a Honda Accord. Who's got the keys to the Porsche? Force, he's got some keys to afford. I'm so flawed, but that's calm. I can't sleep, I take calms. Herbal remedies like tea for me. Bougie, drinking wine and cheese. Catch me in the dance, drinking wine, say cheese. You got that foot in your mouth situation. I got that foot up my inspiration. World domination. But I
Eni interprété I Want.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi sur France Inter.
À son âge, gros, il pleure.
Moi, si je savais que l'amour, ça faisait des trucs comme ça dans la vie.
Oh, Oz, qu'est-ce qu'il y a? C'est Jess?
Tu sais que pleurer, ça donne des maladies de ouf.
Ouais, frère. Pleurer, c'est pas bien, voilà.
Oz, pas pleurer, mon vieux.
Est-ce que je peux chialer tranquillement, s'il vous plaît?
Ah non, tu peux être tranquille, mais tu peux pas chialer. Regarde-moi déjà. Oh.
Ouais.
Souris-moi.
Regarde, voilà, frère, ses cheveux, ils ont commencé à partir et tout. Ça y est, gros, voilà, ça, c'est la calvitie. Hein.
Un extrait du film Fragile d'Emma Benestan, actuellement en salle. Bonjour Emma Benestan.
Bonjour.
Bravo pour votre premier film, hein, qui a également beaucoup plu à notre réalisatrice Claire Destacan. Racontez-nous l'argument en quelques mots, Emma Benestan.
L'argument en quelques mots, c'est une comédie romantique sur un jeune garçon qui se fait larguer par sa petite copine Jessica, dont il est fou amoureux. Et en fait, il va tous ses amis, notamment sa meilleure pote Lila, va l'aider dans ce chagrin d'amour et notamment lui apprendre à danser. Voilà.
Alors, le titre de votre comédie romantique est inspiré d'une phrase que vous avez souvent entendue. « Toi, t'es un fragile ». Et c'est pas forcément flatteur, surtout quand ça s'adresse à un mec.
Exactement. En fait, c'est une phrase que j'entendais beaucoup dans des ateliers de théâtre que je faisais à Grigny, qui se rapprochait de « Toi, t'es un canard » et c'était « Toi, t'es un faible parce que tu montres tes sentiments ». Et c'était surtout sur les rapports amoureux que j'ai entendu dire par des jeunes. Et ça me faisait réfléchir notamment à ce que vous disiez au début de l'émission sur « Moi, c'est un mot que je vois un peu souvent partout, quoi, sur les cartons de déménagement ». Et c'est déjà un moment fragile. Est-ce que c'est faible ou est-ce que c'est justement une délicatesse, quelque chose de précieux aussi qu'il faut préserver en fait. Et c'est vrai que par rapport aux réflexions hommes-femmes actuelles, moi je suis une très grosse fan de comédies romantiques et je voyais plein de comédies qui prenaient plus des femmes fortes, on en a besoin. Mais je me disais à quel moment on inverse et à quel moment on a aussi besoin de montrer la fragilité chez les jeunes hommes, parce qu'il y a une injonction à la virilité permanente et à ne pas pleurer, à ne pas montrer ses fragilités, à ne pas les dire non plus. Et du coup, c'est vrai que je voulais, pour ces raisons-là, j'ai voulu faire ce film, quoi.
Mention spéciale, notamment au héros, hein, Az, et à sa grand-mère. Alors, coup de cœur pour sa grand-mère, qui, elle, sa grand-mère maternelle, qui accepte sa fragilité. Vous voyez, alors elle est très haute en couleur, elle est totalement attachante, et elle accepte sa fragilité, la fragilité de son petit-fils.
Oui, et puis d'ailleurs, c'est avec lui, il se confie à elle, en fait, beaucoup. Il dit, ne lui pas à maman et à Najwa, mais en fait, à toi, je vais raconter que j'ai voulu me marier, je vais raconter. Et c'est elle qui lui dit, bah, tu peux te sentir libre aussi, t'as pas besoin de passer par le mariage, mais qui l'écoute et qui lui donne des conseils. Après, moi, c'était important de montrer un rapport transgénérationnel qui soit plutôt bienveillant et aussi sur une fragilité acceptée, en fait, et racontée dans le rapport familial.
Je précise que ça se passe dans la belle ville de Sète avec des magnifiques lumières. Alors, votre film fait vaciller le mythe viriliste de la force, hein, et de l'idée que, bah, qu'un garçon, ça ne doit pas pleurer. On oublie qu'au XVIIIe siècle, pleurer en public chez un homme n'était pas vu comme un signe de faiblesse, hein, et l'historienne Anne-Vincent Buffaut le raconte très très bien dans son Histoire des larmes. Donc en fait, Az aurait été totalement à l'aise dans certains milieux, dans le XVIIIe siècle français, Eva Benestan.
Ben, je l'espère. Mais en fait, j'espère que ce sera bientôt, enfin, que ce sera plus le cas maintenant, actuellement. Après, quand montrer un garçon pleurer, dire ses sentiments, montrer ses peurs, en fait, c'est vrai que j'écoutais l'émission et je trouvais ça hyper intéressant, tout ce qui se raconte sur cette traversée de la fragilité pour rencontrer l'autre. L'autre qu'on est aussi, qu'on devine, parce que d'un coup on se dit « Ah, ça me fait mal ça me fait peur ça ». Ou l'autre aussi, moi c'est aussi beaucoup un film sur l'amitié, et du coup c'est vrai qu'il pleure et tous ses amis lui disent de pas pleurer, et en même temps ils sont tous là, et ils essayent de l'aider en fait. Et c'est vrai qu'il y a une phrase aussi de Jean-Claude Carrière qui me guidait beaucoup à l'écriture, parce qu'il a écrit un livre sur la fragilité, en disant aussi qu'il essayait, en tout cas quand il écrivait ses scénarios, de trouver la fragilité de chaque personnage pour trouver son endroit d'humanité. Et il disait que on devait préserver notre fragilité parce qu'elle nous rapproche les uns des autres alors que la force nous éloigne. Et je trouve ça hyper juste parce que je trouve que ça nous permet de vraiment... c'est un rapport à l'altérité, je pense. Très fort.
Emma Benestan, pardon, je vous appelais Eva, mais je pensais à Eva Bétan. Vous dites que, et pour terminer, que grandir, ce n'est pas devenir fort. Mûrir, c'est accepter sa part de fragilité, l'assumer et la dévoiler à l'autre, à l'être aimé.
Oui. Non, voilà. Mais après, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. La fragilité, c'est une étape des fois c'est une traversée, mais je pense qu'il faut jamais l'oublier. Enfin, quoi, elle est toujours présente en nous, faut la préserver. Après, je pense que c'est vraiment, moi j'ai l'impression que c'est mûrir aussi, de l'accepter et de se rendre compte effectivement pourquoi à ce moment-là ça nous rend mal, pourquoi ça nous rend malheureux, de quoi on a peur, etc. Mais en fait, elle dit des choses sur nous de manière humaine. Et du coup, la contrer tout le temps, par contre, travailler sur elle et savoir comment. Et essayer de l'appréhender et de l'apprivoiser, ça c'est essentiel, je pense.
Merci beaucoup Emma Benestan, vous l'aurez compris, je recommande vraiment Fragile à voir dès ce soir ou ce week-end en famille, c'est absolument formidable. Merci beaucoup Arthur Lockman, Touché le Vertige, et publié chez Flammarion. Vous reviendrez pour une émission que nous consacrerons au Vertige. Merci Camille Sfez, Vulnérable, et publié chez Le Duc. Merci Martin Legros, le tout nouveau Philosophie Magazine est disponible en kiosque.